Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le virage nucléaire d'Emmanuel Macron confirmé pour l'énergie de demain. Le chef de l'État veut à la fois doubler la production de renouvelables d'ici à 2030 et construire 6 nouveaux EPR sans fermer aucune des centrales existantes. Nous serons sur place avec les salariés de Belfort et notre spécialiste environnement aussi. La mort du scientifique Luc Montagnier, un Nobel et des controverses. Il avait 89 ans. Dans ce journal encore, les convois dits de la liberté interdits à Paris et à Bruxelles. Les professionnels du grand âge réclament une réforme d'ampleur au futur président. Et puis les coulisses du ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, tous les invités ce soir, Hélène, sont à Brest au One Ocean Summit. Et la question qu'on pose, c'est faut-il sanctuariser les océans? On le fait déjà en partie. Faut-il en faire plus? Faut-il également interdire tout forage, particulièrement en haute mer? Au fond de l'eau, il y a des minerais, figurez-vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Il est encore fidèle à son en même temps Emmanuel Macron. Nouveau parc éolien et relance du nucléaire. Deux axes d'un discours aux allures de programme du président presque candidat depuis le site de turbine racheté par EDF à Belfort. Maxence Lambrecq, bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Un discours qui acte quand même avant tout la renaissance du nucléaire.
Oui, il en parle comme d'une grande aventure. Un projet à plus de 50 milliards d'euros qui devrait faire de la France le premier grand pays indépendant des énergies fossiles.
Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035.
À terme, 14 EPR, plus aucune ambiguïté. Emmanuel Macron a choisi son camp et enchante Belfort. Au premier rang, Jean-Pierre Chevènement, l'ancienne figure du souverainisme de gauche, applaudit.
C'est quand même la grande nouvelle. Parce que le dernier réacteur commandé, j'ai été ministre de l'Industrie en 1981-82. L'horizon 2035, 2040, 2045, ça peut paraître loin. Mais c'est le temps long.
Le temps long évoqué 2 mois tout pile avant l'élection présidentielle.
Maxence Lambrecq, un discours donc très politique.
Il n'a pas pu s'empêcher de s'attaquer à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.
Imagine-t-on une France où il y aura d'ici 30 ans 40 000 éoliennes au lieu de 8 000 aujourd'hui et 90 parcs éoliens offshore quand notre pays a mis 10 ans pour en faire un. C'est cela que les partisans de la sortie du nucléaire proposent aujourd'hui aux Français, ce qui n'est pas sérieux.
Et il s'en est aussi pris à Éric Zemmour et Marine Le Pen qui veulent un moratoire sur les éoliennes. Pas sérieux non plus, dit-il, si on écoute les experts, il n'y a que le « en même temps » qui vaille, ça tombe bien. Il propose 50 parcs éoliens en mer et 10 fois plus de panneaux solaires à horizon 2050. Il revoit ses ambitions en termes d'éoliens terrestres, 2 fois plus d'éoliennes, non pas en 10 ans, mais en 30 ans. Tout cela n'est qu'un projet de campagne qui sera débattu l'an prochain au Parlement s'il est réélu.
Discours programme. Donc pour Emmanuel Macron, a-t-il convaincu les salariés de Belfort avec qui il a échangé juste avant le discours? Silver, salarié de General Electric depuis 2008.
On verra ce qui se passe avec, après les élections, etc. C'est quand même un bon message, on va dire. Voilà. Après, est-ce que c'est des promesses électoralistes? On n'en sait rien. Positif et prudent, voilà. À quel niveau c'est engageant, en fait, les annonces qui ont été faites? Mais ça donne quand même un cap, une vision qui est intéressant. Si le projet se réalise d'avoir 14 nouveaux réacteurs, ben, ici, le travail, ben, il y aura beaucoup de travail pour la population, quoi.
Un témoignage recueilli par Clémence Gourdon-Négrini de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Et je le disais donc, 2 piliers à ce discours. D'un côté, le retour en force du nucléaire, vanté comme énergie décarbonée par le président. De l'autre, le renouvelable. Emmanuel Macron veut doubler la production d'électricité verte d'ici à 2030. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Et ça, c'est pour le moins ambitieux car on part de loin.
Oui, Emmanuel Macron veut multiplier par 10 la capacité installée de l'énergie solaire, 100 gigawatts contre 13 aujourd'hui. Il mise aussi sur une 50aine de parcs d'éoliennes en mer d'ici 2050. À ce jour, il n'y en a pas. Le premier doit ouvrir au large de Saint-Nazaire au printemps. 6 autres sont dans les tuyaux. Quant à l'éolien terrestre, le président dit comprendre les réticences des opposants, mais on ne pourra pas s'en passer. La concession, ralentir leur déploiement, la capacité installée des éoliennes terrestres sera doublée, mais cet objectif sera étalé jusqu'en 2050. Voilà, le président a fixé un cap ambitieux pour les énergies renouvelables à l'horizon 2050, mais c'est loin. La filière réclame des objectifs intermédiaires à 2030 pour planifier, structurer ce déploiement massif. Autre condition pour se mettre sur la bonne trajectoire, le syndicat des énergies renouvelables dit qu'il faut raccourcir les délais d'instruction, avoir plus de personnel spécialisé dans les administrations locales, un vrai pilotage de l'État et aussi une campagne d'information nationale pour mieux faire accepter ces nouvelles installations par les riverains. Sinon, la France ne parviendra pas à combler son retard déjà pris en matière de déploiement des énergies renouvelables.
Sandy Dauphin, et face au discours du presque candidat Emmanuel Macron, celui du candidat déjà déclaré Yannick Jadot, l'écologiste, était à Montpellier aujourd'hui pour un autre de ses meetings en plein air et pour développer ses propositions alternatives au nucléaire. Antoine Gignot y était.
La multiplication des EPR, c'est la multiplication d'un fiasco. Voilà le point de départ du candidat écologiste qui, face au discours d'Emmanuel Macron, oppose des arguments économiques.
C'est totalement aberrant. Les 6 EPR qu'il veut construire, c'est le budget de l'hôpital public. Nous, écologistes, évidemment, nous considérons que le nucléaire, c'est d'abord un combat moral. On n'a pas envie que ça pète. Mais aussi aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour le pouvoir d'achat.
Dans la foule, l'argument fonctionne pour les quelques centaines de militants venus de Montpellier, de Toulouse, de Béziers ou de Perpignan.
Yannick commence à prendre confiance en lui, ça va passer large.
Marie-Hélène vient de rejoindre Europe Écologie Les Verts.
La France, elle s'investit pas assez dans les énergies renouvelables, mais maintenant on comprend bien pourquoi, puisqu'on veut relancer tranquillement des EPR. J'ai envie que les idées passent et rien que de parler aux gens, ça me fait du bien.
L'écologie, c'est que du plaisir.
Le bien-être, un nouveau mot d'ordre dans cette campagne, répété à l'envi par l'ancien député européen José Bové, venu soutenir Yannick Jadot.
C'est quelqu'un qui s'est battu, qui a pris des risques.
Avec la volonté de faire apparaître le candidat écologiste comme le défenseur des libertés individuelles.
Un reportage signé Antoine Gignot, la transition écologique au cœur du réacteur électoral qui impose une mutation douloureuse pour certains. Le sidérurgiste ArcelorMittal, dont l'activité est l'une des plus émettrices de gaz à effet de serre, promet de réduire l'intensité de ses émissions de 25% d'ici à 2030. Mais c'est un risque financier, dit-il, un chemin long et difficile. Tout à l'inverse, Total Energy, qui affiche un bénéfice net record de 14 milliards d'euros sur un an grâce à l'envolée du prix du pétrole notamment, ne voit pas pour autant d'un mauvais œil le virage du renouvelable. Et il n'est pas seulement question d'image, c'est aussi là que se profilent les leviers de croissance et de profit. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, l'a expliqué tout à l'heure en anglais aux actionnaires du groupe.
Au sujet des énergies renouvelables, plus je regarde ce marché et plus je pense que le prix de cette électricité-là va augmenter encore et encore. C'est pour cela qu'une entreprise comme la nôtre, Total Energy, va sur ce marché. Notre objectif, c'est de faire de la croissance et du profit. Cette année, nous allons donc investir environ 3,5 milliards d'euros dans le renouvelable. Nous allons lancer une immense centrale solaire au beau milieu du désert, à Al Kharsa, au Qatar. Le renouvelable devient un levier très important pour notre entreprise.
Patrick Pouyanné, traduit par Thomas Giraudot. Et face au prix de l'énergie qui ne baisse pas, ce geste symbolique en Italie, des dizaines de communes, dont Rome, ont décidé d'éteindre l'éclairage de leurs monuments historiques pendant une demi-heure pour mettre la pression sur le gouvernement dont il juge les mesures insuffisantes.
L'ancien prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, est mort à 89 ans.
C'est François qui l'annonçait il y a deux jours, mais on a eu la confirmation officielle de sa mort que dans l'après-midi aujourd'hui par la mairie de Neuilly-sur-Seine qui a enregistré son avis de décès. Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida, prix Nobel de médecine, vous le disiez, en 2008 pour cette découverte. Il multipliait aussi les prises de position controversées ces dernières années, comme en avril 2020, quand il avançait que le Covid-19 était une création chinoise à partir de molécules du VIH, anti-vax avant même le Covid. Christine Rouziou le connaissait bien puisqu'elle était dans son équipe dans les années 80.
Il faut lui rendre hommage pour le fait qu'il a suggéré tout notre jeune groupe de recherche sur le VIH et mené à bien cette formidable aventure de la découverte du virus du sida, reconnue par le prix Nobel en 2008. On était des jeunes et était le plus âgé et ça se passait bien parce que c'était un homme relativement tolérant. À ce moment-là, il a été extrêmement productif, respectueux de nous. Après, ses positions scientifiques, évidemment, nous ont beaucoup déçus. Ses prises de position qui étaient si peu scientifiques et si peu solides. Sa position notamment sur contre les vaccinations chez les enfants, contre un certain nombre de vaccinations. C'est vrai que ça a beaucoup nuit à son aura et à son image de scientifique. Je crois qu'il n'y a pas à commenter plus. Mais voilà, c'est vrai que nous gardons en mémoire cette formidable aventure que nous avons vécue avec lui.
Christine Rouzio au téléphone de Véronique Julia. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, salue ce soir les travaux du professeur. Le professeur Didier Raoult, de son côté, rend hommage à un homme dont l'originalité et les découvertes sur l'ARN ont permis la création du laboratoire qui a identifié le virus du sida, écrit-il sur Twitter. Les convois de voitures, camping-cars ou camionnettes anti-pass vaccinal ne pourront pas se rassembler ni à Paris ni à Bruxelles. Les deux capitales craignent des troubles à l'ordre public. De nouveaux cortèges sont partis aujourd'hui sans que les autorités n'arrivent encore à évaluer précisément leur importance. Et puis l'épidémie de Covid décroît. Deux chiffres nous le disent. Sur les 7 derniers jours, il y a eu moins de 200 000 contaminations en moyenne par jour. C'est moitié moins qu'il y a quelques semaines. Et puis moins de 7 millions de tests de dépistage ont été réalisés la semaine dernière. Le scandale Orpea amènera-t-il à la grande réforme du grand âge que réclame le secteur depuis des années? Une douzaine d'organisations professionnelles, de l'aide à domicile, la Fédération hospitalière de France, le syndicat des EHPAD privés aussi. Il faut que ce soit une priorité des 100 premiers jours du mandat du futur président, insiste Antoine Perrin, le directeur général de la Fédération de l'hospitalisation privée non lucrative.
Nous allons avoir à partir de 2024 le papy-boom de l'après-guerre. Il va y avoir une augmentation très importante des personnes âgées polypathologiques dépendantes, donc nécessitant un accompagnement à la personne plus fort. Il y a une cinquième branche qui a été créée, mais pour le moment c'est une coquille vide. Nous savons qu'il y a besoin au minimum de 5 milliards d'euros d'ici 2027, et pour le moment cet argent n'est pas là. Donc on veut prévenir les candidats, attention, ça fait 3 quinquennats qu'une loi grand âge est repoussée, ça ne peut plus attendre. Et il faut faire vite, puisque si on veut atteindre l'objectif d'un bon accompagnement de ce pépi-boom en 2027 et d'une montée en qualité déjà de l'accompagnement des personnes actuelles, il faut mettre des moyens considérables dès maintenant pour former, pour recruter et pour fidéliser ces professionnels.
Antoine Perrin avec Anne Orenstein. Une tribune est assignée en ligne pour ceux qui le souhaitent. La campagne embarrassée côté Valérie Pécresse. La candidate LR doit voir Nicolas Sarkozy demain sans que l'ancien président se soit encore prononcé sur un éventuel soutien. Elle doit faire avec les amabilités de Rachida Dati qui trouve que sa campagne manque d'incarnation. Et elle a donc assisté hier au ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron qui se prépare en fait de longue date, Anne Souhaitement.
Gêné depuis des années par la ligne de plus en plus droitière des LR, Éric Woerth n'a pas cédé aux sirènes macronistes du jour au lendemain. C'est en 2020, en plein confinement, que tout commence. Spécialiste des questions de budget, le parlementaire esquisse un plan de relance pour son parti sans faire l'écho dans la presse. Contacté par le ministère de l'économie pour en parler, il se rend plusieurs fois à Bercy, rencontre le ministre Bruno Le Maire, venu de la même famille politique que lui et avec qui il n'a jamais rompu le contact. Le processus se poursuit par des entretiens avec Emmanuel Macron à l'Élysée. On a cheminé, raconte le député. Cet automne, pendant la primaire de la droite, Éric Woerth reste en retrait. En désaccord avec une campagne dominée par la sécurité et l'immigration, il vote blanc au premier tour, sèche les réunions stratégiques du parti. C'est en janvier que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy annonce en personne à Emmanuel Macron qu'il le soutiendra. En échange de quoi ? Rien, n'assure l'intéressé, qui compte bien s'investir dans la campagne et pourquoi pas au gouvernement si Macron était réélu.
Anne Souhaitement, et c'est un autre sujet de campagne, l'emploi dans une économie qui repart. Le chômage baisse, mais il y a encore entre 255 000 et 390 000 offres non pourvues, selon une estimation de Pôle emploi. Ce que l'on constate, bonsoir Fabien Cazot,
bonsoir.
C'est que les problèmes de recrutement se retrouvent bien souvent dans des secteurs où les conditions de travail et de rémunération sont les plus dures.
Oui, comme par exemple les métiers de la construction, de la mécanique, de la réparation automobile. Dans près d'un cas sur deux, les recruteurs ont dû revoir à la hausse leurs offres de salaire en cours de processus pour pour pouvoir recruter. D'autres, comme l'hôtellerie-restauration ou les services à la personne, ont dû faire des efforts sur les conditions de travail, les plannings, les horaires. En tout, 7 recruteurs sur 10 qui ont cherché à embaucher l'an dernier ont déclaré rencontrer des difficultés. La main-d'œuvre disponible étant plus rare, les profils restants n'étaient pas toujours adaptés au poste à pourvoir. 2/3 des recruteurs ont dû revoir leurs exigences à la baisse en termes d'expérience ou de niveau de formation. 185 000 projets de recrutement ont dû être purement et simplement abandonnés l'année dernière. C'est 18% de plus qu'en 2018, la plupart étant des CDI ou des contrats de plus de 6 mois. Ce sont les petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont été les plus touchées.
Fabien Cazot, et puis cette très grosse commande de 42 Rafales, cette fois c'est l'Indonésie qui achète un contrat à plus de 7 milliards d'euros.
Le collectif Les Hijabeuses réclame le droit de faire du sport tout en portant le hijab.
Une manifestation était organisée hier soir aux Invalides, près de l'Assemblée où était débattue la loi sport. Les députés ont en effet abrogé un amendement du groupe LR interdisant le port de signes religieux ostensibles lors de compétitions sportives. Les joueuses, elles, avaient saisi le Conseil d'État à l'automne pour pousser la Fédération française de football à changer son règlement qui interdit le port du voile. Et aujourd'hui, Emma Sarango, elles reçoivent le soutien d'une ministre.
Non pas celle des sports en isolement car positive au Covid, mais celle de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, interrogée sur LCI.
Très souvent, les filles ont l'impossibilité, cette fameuse assignation à résidence,
et pourquoi pas,
de sortir de chez elles pour faire les choses. On a une loi aujourd'hui qui interdit certains prosélytismes dans les clubs de foot. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi.
Vous l'entendez, elle n'est pas catégorique non plus, Elisabeth Moreno. D'ailleurs, on ne peut pas dire que la majorité soit unanime sur le sujet. Au même moment, sur CNews, la députée des Yvelines, Aurore Berger, par exemple, avait un avis bien différent.
Moi, ce que je sais, c'est qu'on a des fédérations sportives qui sont courageuses et que ces fédérations sportives, elles ont
sont
pris
démunies.
Des décisions
elles sont démunies.
Dans leur règlement intérieur en disant qu'elles ne voulaient aucun prosélytisme religieux. Pour moi, la question, c'est pas juste la question du hijab, la question du voile, c'est que sur un terrain de sport, la religion n'a rien à y faire, n'a pas sa place.
Bref, à 2 mois de la présidentielle, le sujet est évidemment éminemment politique. D'ailleurs, la Fédération française de football reste en retrait. Rappelle qu'elle dépend du ministère des Sports, donc se contente d'appliquer les consignes gouvernementales. La FFF souligne malgré tout que la philosophie du football français repose sur le vivre ensemble, la neutralité et la laïcité.
Les sports, ce soir, on retient les larmes d'Alexis Pinturault qui a chuté lors du slalom du combiné aux Jeux Olympiques. Il souffre d'une contusion simple de l'épaule et d'une énorme déception, on imagine. Le rugby, on ne change presque pas une équipe qui gagne face à l'Irlande. Le 15 de France va s'appuyer samedi sur 13 des 15 titulaires vainqueurs de l'Italie. Les deux nouveaux, Yoram Moefana, centre de Bordeaux-Bègles, et le Toulousain François Kroos, côté irlandais, l'emblématique capitaine Johnny Sexton est forfait. Et puis le football, quart de finale de la Coupe de France ce soir entre Nantes et Bastia. Les supporters pas très contents parce que interdit de centre-ville par la préfecture. Allez, direction Berlin qui fait son cinéma pendant 10 jours. La 72e Berlinale débute ce soir avec en film d'ouverture un film français, le dernier François Ozon, avec Isabelle Adjani et Denis Ménochet. Si le festival berlinois met souvent la France à l'honneur, cette édition est un grand cru à Berlin. Ludovic Piétenu.
9 films en partie ou totalement français. Sur les 18 films en compétition officielle, 6 sont des coproductions et 3 autres, des films 100% tricolores avec de grands noms au casting de chacun d'entre eux. Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, ajoutez une autre grande actrice, Isabelle Huppert, qui se verra récompensée d'un ours d'or d'honneur pour ses 50 années de carrière. Sans oublier Alain Guiraudy, qui a l'honneur, comme pour François Ozon, de voir son film projeté aussi ce soir en ouverture du festival dans une sélection parallèle, Panorama, que dirige l'Allemand Michael Stutz. C'est certain, dit-il, le drapeau français est hissé sur Berlin. Pour lui, le cinéma français est grand parce qu'il offre un large éventail, des documentaires, des films de genre, d'autres capables d'atteindre un public plus large, des comédies, des satires comme le film de Guiraudy, qui lui font penser aussi à la perspective queer et LGBT qu'offre le cinéma français, qui a une très grande histoire ici depuis le début des années 90. La capitale allemande, tout juste réunifiée, est en effet secouée en 1992 par la projection des Nuits Fauves du français Cyril Collard. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et puisqu'on parle de cinéma, hommage aussi à André Wilms, mort aujourd'hui à 74 ans, homme de théâtre, acteur fétiche d'Aki Kaurismäki, mais aussi l'inoubliable père bourgeois de la famille, Cato coincé le Quénois, dont la vie est un long fleuve tranquille, d'Étienne Châtillaise.
Merci beaucoup. Elle Hélène Philippe, bien sûr, à demain. Pour nous, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. On est à Brest. En tout cas, nos invités sont à Brest depuis le One Ocean Summit. Faut-il sanctuariser les océans et faut-il interdire le forage aussi dans les grands fonds puisqu'ils regorgent de minerais? À vous de nous le dire et d'en parler ensemble, en tout cas, au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, juste après.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Élodie Callac, des pluies circulent au nord ce soir.
Oui, elles traversent la région parisienne en ce moment et elles vont glisser vers le sud et l'est cette nuit. Il neigera un petit peu en montagne. Demain matin, on retrouvera quelques pluies du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées vers le Massif central, le Jura, la région Rhône-Alpes. Un peu de neige toujours en montagne. L'après-midi, de petites éclaircies se dessineront. Elles s'imposeront plus largement sur le Jura et sur le Lyonnais. Plus au nord, on aura du soleil avec quelques brouillards tout de même le matin et un ciel plus nuageux en allant vers le nord-est. Et puis du Roussillon à l'ouest de la Provence. Là, les nuages seront assez nombreux le matin, mais le soleil reviendra ensuite. Sur l'est de la Provence et la Corse, du soleil dès le matin. Un peu plus de nuages pour les Alpes-Maritimes l'après-midi et du vent Mistral Tramontane jusqu'à 70 km à l'heure.
Et sinon, il fera plus froid demain.
Avec le retour des gelées sur les régions du Nord, donc attention sur les routes, ça pourrait glisser. L'après-midi, il fera 6 degrés à Nancy, 8 à Lille et à Lyon, 9 degrés à Cherbourg, Paris, Mulhouse et Limoges, 11 degrés du côté de Vannes et de Bordeaux, 12 pour Toulouse, 17 à Montpellier et 18 à Toulon.
Merci beaucoup, Élodie Callac de Météo France.